Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de retracer l'histoire de Clémentine Gallet qui a créé le podcast Bliss Stories. Si vous ne le connaissez pas encore, ce podcast est devenu en un peu plus d'un an la référence des podcasts maternité en France. Clémentine y donne la parole dans de longues interviews à des mamans à propos de leur grossesse et de leur rôle de mère. Bliss Stories est en quelque sorte le miroir d'histoire de Daron, mon autre podcast dédié au père. Dans cet épisode, on retrace avec Clémentine son parcours qui l'a amené à démissionner de TF1 il y a quelques mois pour se lancer à plein temps dans l'aventure du podcast. Depuis le cinéma vers la création de Bliss il y a un an et demi, en passant par la direction de casting pour la télé et la télé-réalité, tous les chemins peuvent mener vers la création de son propre podcast en 2019. Mais vous comprendrez assez rapidement que pour y arriver, Clémentine a travaillé d'arrache-pied. On reparle de tout ça ensemble, j'espère que vous apprécierez cet épisode. Merci pour tous les commentaires que vous avez postés sur Apple Podcast depuis ces dernières semaines, mais j'ai encore besoin de vous. Pour l'instant, il n'y a qu'une petite centaine de notes et de commentaires et j'aimerais aller beaucoup plus loin. Si vous avez un iPhone et 3 minutes, ça serait donc super que vous tapiez Histoire de succès dans Apple Podcast et que vous lui mettiez 5 étoiles et un commentaire de préférence sympa sur ce que vous pensez de ce podcast. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast, venez mettre un commentaire sur www.histoiredesucces.com. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. C'est toujours le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Je vous souhaite de passer un bon moment et des bonnes vacances de Noël si vous êtes en vacances, en compagnie de Clémentine Gallet.
Un pote qui parle à la maternité.
Oh my god, bah oui, dis je file à la maternité. Ah, tu sais, moi, je suis aux premières loges, hein, pour tout ce qui est... C'est marrant, hein, on me prévient.
T'es devenu... Bon, il en a encore pour 8 heures, hein, donc voilà, il arrête de ça. S'énerver, quoi.
C'est son détends. Premier Non. Okay. Tu te détends, tu respires, ça va bien se passer.
J'ai écouté le dernier... Non, c'était pas le dernier. Coucou les girls.
Ah, Juliette.
J'aime bien.
On est parti, c'est parti loin avec Juliette. Hein.
Oui, c'est... Oui, on était sur une petite thérapie.
Petite introspection. Hein, ouais. On y va ?
Nous sommes des accoucheurs de l'âme, n'est-ce pas ?
On est Clémentine. Salut Clémentine.
Salut Fabrice.
Ça va ?
Très bien et toi ?
Ça va bien Clémentine. Pour expliquer un petit peu ce que tu fais, qui tu es, tu viens à la base du milieu de la télé.
Absolument.
Et t'as lancé il y a un an ? Un peu plus ?
Un peu plus, ça fait un an et demi, vraiment. Ouais, avril 2018.
Ouais, voilà. Donc un an et demi.
Ouais, un an et demi.
Ce podcast qui est devenu une référence aujourd'hui dans le monde du podcast français. Non, mais c'est vrai, il n'y en a pas.
Bah, écoute, je m'en rends pas bien compte, mais tant mieux si c'est le cas.
T'as beaucoup d'auditeurs, enfin, je veux dire,
oui,
d'auditrices.
Oui, j'ai beaucoup d'auditrices surtout.
Surtout,
oui.
Je pense.
Oui, oui.
Où tu parles de maternité, enfin, tu fais intervenir des femmes pour parler de leur rapport à leur maternité,
ouais.
Depuis l'envie d'enfant jusqu'à aujourd'hui où elles ont des enfants et il y a.
Oui.
Toutes sortes d'histoires. T'en es... Donc, tu fais un épisode par semaine. Donc,
exactement. Bah là, j'en suis à 60 épisodes à peu près. Ouais, ouais.
Et avec autant d'histoires différentes, c'est très bien parce qu'en fait, tu as réussi à la fois à avoir des anonymes et des personnalités aussi qui ont bien voulu venir te raconter leur rapport à leur accouchement, qui est un truc un peu intime, si tu veux. Donc, bravo pour ça, c'est cool.
Merci.
On va parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'amène à avoir créé Bliss et puis ce que tu as envie de faire ensuite. Hein. Mais avant ça, j'aime bien demander un petit peu à mes invités à quoi ressemblait Clémentine quand tu avais 7-8 ans.
Ah ouais, quand j'avais 7-8 ans, c'est-à-dire l'âge de mon fils. C'est marrant parce que du coup, comme j'ai le modèle à la maison, c'est très concret. ce que tu me demandes. alors écoute, moi à 7-8 ans, j'étais une petite fille sans histoire. Vraiment, j'étais une petite fille très sage, très discrète, très girly, très déjà dans l'amitié, dans des amitiés très fortes, très famille. J'étais l'aînée, enfin je suis l'aînée d'une fratrie de quatre, donc okay. Voilà, et notamment de petites sœurs jumelles avec qui j'ai 9 ans d'écart, donc okay. À 8 ans, tu vois, je les avais pas encore, ouais. Mais j'étais déjà grande sœur. Et donc, c'était avant, voilà, qu'on passe de 2 à 4 enfants. Donc, wow. J'étais encore un peu tranquille. et donc, non, bah, écoute, 7-8 ans, c'est quoi? CP, CE1, CE2, ouais, c'est une enfance très choyée, dans le 5e arrondissement, très privilégiée, avec le jardin des plantes comme square du quartier, tu vois, donc c'était pas mal. Et puis, et puis ouais, en termes de caractère, je te dis, j'étais très très accro à mes amis. Voilà, j'avais des amitiés indestructibles. Tu sais, c'est des moments même de ta vie où tu te dis que t'es presque sœur en fait. Nous, on se disait qu'on était forcément sœurs tellement on était liées, tu vois. Et puis j'avais pas de sœur encore à l'époque, donc voilà, c'était.
J'avais un petit frère, c'est ça.
J'ai un petit frère et donc deux petites sœurs qui sont arrivées après. Donc voilà, la Clémentine de cette époque était plutôt une petite fille, je te dis, assez timide et réservée. En fait, je me suis beaucoup, comment on dit,
ouverte, épanouie.
Ouais, épanouie. Je suis devenue de introvertie. Je pense que je suis devenue extravertie avec les années. Voilà.
Mais à quel âge alors, tu dirais ?
Bah, j'ai fait beaucoup de théâtre à un moment, et ça aide hein, forcément à sortir de sa coquille. Donc, j'ai fait beaucoup de théâtre, toujours en primaire, mais un peu après 7-8 ans, j'étais plutôt en CM2, tu vois, et puis après tout le collège. Et j'ai fait partie d'une troupe, en fait, qui étaient mes amis de l'école et avec qui on a monté une troupe. Et ça a été un formidable accélérateur de personnalité, quoi. Ouais. Et aussi d'expression de cette adolescence, parce qu'on mettait beaucoup de choses dans nos spectacles. Ouais. Voilà.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter sur scène alors que t'étais introvertie?
Justement, l'amitié. En fait, j'avais envie d'être avec eux. J'avais envie de
c'était
faire partie.
C'était potes qui ont été.
Ouais, okay. Ouais, eux en faisaient partie. Okay. Et c'était notre prof de sport, en fait. Qui était fantastique et qui nous faisait faire à la base des cours d'expression corporelle. Et en fait, d'expression corporelle, on est passé à expression scénique, en fait, et théâtre, si tu veux. Et au fur et à mesure des années, il s'est passé un truc dans ce petit groupe de potes. Et d'ailleurs, on n'était même pas tous au même niveau. Il y en avait des plus vieux que moi, des plus jeunes. Et en fait, on s'est retrouvés autour du théâtre, quoi. Et on a formé cette troupe. Et bon, c'était des petits spectacles très confidentiels, tu vois, de quartier, avec nos parents et tout. Mais nous, on y mettait beaucoup de nous.
Et tu parlais de la naissance de tes deux sœurs jumelles. Ça a été un truc un peu, comment dire, important dans ta vie
oui,
à l'époque.
Fondamental.
Quand t'as 9 ans, non ?
Ouais, j'ai 9 ans et demi à l'époque, ouais. Oh bah t'imagines, pour une petite fille de 9 ans, d'apprendre qu'elle va avoir deux sœurs. Enfin, non, je savais pas que c'était deux filles. Je savais qu'il y en avait au moins une. Mais d'avoir, voilà, tout d'un coup, deux bébés qui déboulent dans une famille, ouais, c'était merveilleux. Enfin, nous, on était en transe avec mon frère. Vraiment, c'était incroyable. Je m'en suis énormément occupée. Ça a été un grand bouleversement dans ma vie de petite fille. Et à la fois, j'ai adoré ça. Je m'en suis énormément occupée. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, tu vois, le lien avec le théâtre, on mettait tellement de nous dans nos pièces que je me souviens que l'année où elles sont nées, oh bah, j'ai carrément... mon personnage accouchait sur scène.
Ah bah,
tu vois,
oui.
Voilà, deux jumeaux. Donc, tu vois, c'était bien parce que ça nous permettait de, voilà, d'exprimer tout... voilà, tout ce qu'on emmagasinait à la maison, on le rebalançait après dans nos pièces de théâtre.
Ok.
C'était une catharsis.
C'était cathartique.
Voilà. Bien compris.
Oui, je l'avais. Comment se passe ton adolescence au lycée?
Oula.
Oula.
Écoute, non, mais oula, plutôt bien, hein, franchement, il n'y a pas eu de vagues. Moi, j'ai jamais fait trop de vagues, okay. Tu vois, peut-être de par ma position d'aîné, responsable, voilà, j'ai pas trop fait de conneries.
T'as été éduqué un peu comme ça,
Ouais, je pense que j'ai...
À ce qu'on te colle des responsabilités que tu n'avais pas forcément demandé ?
Non, mes parents, franchement, étaient assez cool, mais... foutue comme ça.
Oui, c'est ça.
Ouais, j'ai reçu une éducation avec beaucoup, beaucoup d'amour et des parents qui nous ont, à tous les quatre d'ailleurs, injecté beaucoup de confiance en nous.
Ok.
Beaucoup d'équilibre et beaucoup de confiance en nous. Je te dis ça parce que avec le recul, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit, en fait. Moi et mes frères et sœurs.
Voilà. Ok.
On nous dit souvent ça, qu'on est des gens équilibrés. Non, mais c'est marrant, mais et ça, c'est vrai qu'on le doit à nos parents parce que ils ont su faire. Donc tant mieux pour nous, c'est cool. Mais donc voilà, non, une adolescence toujours dans le cinquième, très très cool. Le collège, j'ai surtout découvert les garçons. Hein. Voilà, c'était quand même l'intérêt principal du collège, c'est les mecs. Voilà.
Pourquoi t'en parles spontanément?
Parce que s'il y a quelque chose qui m'a marqué dans mon adolescence, c'est ça, c'est la découverte de la séduction, du flirt, de l'amour, passionnel, passionné, Ouais, moi, ça a été une grande étape pour moi, ça.
Ok.
J'étais de ces petites filles, j'étais de ces adolescentes qui avaient déjà au collège des histoires assez sérieuses, tu vois. D'ailleurs, mes parents détestaient quand ils me croisaient dans la rue avec, tu sais, où on se tenait par la main, où on se tenait par l'épaule, comme des petits couples, en fait.
Ouais. Pourquoi ils détestaient ça?
Ah, ils aimaient pas, parce qu'ils voyaient leur fille de 13-14 ans se comporter comme une femme, tu vois, et ils aimaient pas ça. Donc, ce que je peux comprendre rétrospectivement, mais bon. Mais moi, je trouvais ça normal. J'avais un peu envie d'accélérer les choses, je pense. Mais...
Aujourd'hui, t'as un fils et une fille.
J'ai un garçon et une fille, ouais. Ouais. Donc, un Pablo qui a 8 ans et une Thelma qui a 6 ans.
Ok. Comment tu réagirais, toi, si dans 6-8 ans...
Ah c'est irréel, là, pour l'instant. Enfin, il commence à avoir des amoureux, ouais, mais... J'essaye d'en parler un maximum avec eux. Je trouve ça trop chouette, tu vois. En fait, j'ai envie qu'ils puissent tout s'autoriser dans le dialogue. Après, ils ont envie, ils ont pas envie, ils font ce qu'ils veulent. Mais j'ai envie qu'ils sachent qu'ils peuvent tout me dire. Tout nous dire, d'ailleurs, parce que leur père est pareil. Donc, écoute, pour l'instant, ça a l'air de bien marcher, même si là, Pablo, il commence à vouloir son intimité. Il dit « Attends, mais maman, mais c'est mon intimité, ça va ?»
Ah.
Ouais, ok, d'accord, mais je suis ta mère, ça va, tu peux... Dis, tu peux tout me dire, raconte. Non, on verra, mais là, c'est trop mon intimité, d'accord. Bon.
Bah voilà.
Voilà, on y est.
Il t'oblige à couper le cordon, les ciseaux en disant « à toi de jouer maintenant ».
Exactement.
Ah, la déchirure.
Ah, c'est dur. Ouais. Non, mais je ne perds pas espoir de rester sa confidente. Ça serait... Ouais, ça, j'aimerais bien.
C'est vrai ?
Ouais. Je trouverais ça cool qu'on puisse partager ses états d'âme, ses doutes, ses joies, tu vois. Bon, mais je me fais pas d'illusions. Hein. J'imagine que... Je me dis que c'est complètement utopique. Mais bon, on sait jamais. Faut toujours rêver.
Très bien. Tu fais quoi comme études après? En fait, lycée, comment ça se passe pour toi? J'imagine que tu fais des bonnes études, quoi.
Ouais, je fais des études dans le quartier latin, à Saint-Germain, dans un petit lycée plutôt littéraire. Moi, je suis plutôt une littéraire. Je continue de faire du théâtre. J'aime bien ça. J'aime bien les mots, j'aime bien le théâtre, j'aime bien le cinéma. Je commence à un peu aiguiser cette culture-là. Et puis je me décide à faire des études de cinéma après le lycée.
Ok.
Parce que mon père a toujours, mon père a fait beaucoup de cinéma dans sa vie, notamment il a fait. il a fait comment s'appelle cette école, parce que c'était un l'école Louis Lumière, mais okay. Bon, qui s'appelle plus comme ça, je crois. Si Louis Lumière, oui, il y a Louis Lumière et la Fémis. Lui, il avait fait Louis Lumière, et donc voilà, j'ai beaucoup baigné dans cette culture cinéphile. Et puis après, ils ont fait beaucoup de télé, mes parents, et je voulais surtout pas faire de télé. Pour moi, c'était vraiment le truc à fuir à tout prix. Genre, non, mais c'est bon, je vais pas faire comme mes parents, ça va. Alors, mon père est toujours réalisateur de, okay. d'émissions de télé, et ma mère, figure-toi, était animatrice.
Ok.
Des chiffres et des lettres. Absolument. Tu l'as peut-être vu chez tes parents ou chez tes grands-parents. En général, mes potes me disent « Ah mais oui, je regardais chez mes grands-parents. » Tu vois, c'était la dame qui mettait les chiffres.
Non.
Mais si, et qui mettait les plaquettes comme ça.
Ok.
Et elle mettait 10, 75, 25,
ouais, je vois.
Et puis clac, clac, clac,
ouais.
Elle se retournait avec un grand sourire.
Ok.
475. Et donc après, les deux candidats...
Donc à l'époque de Patrice Laffont et tout, quoi.
Tout à fait, okay. À l'époque de Patrice, bien okay. sûr. Donc moi, si tu veux, j'ai grandi sur ce plateau de des chiffres et des lettres.
Okay.
En fait, elle a fait ça, elle a commencé, elle était enceinte de moi et elle a arrêté. Mes sœurs avaient 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Donc elle a fait ça pendant 12 ans, tu vois. Donc en fait, tous les soirs, j'avais ma mère dans le poste, quoi, tu vois. C'est marrant. D'ailleurs, c'était une petite célébrité locale, enfin locale. Non, national.
Bah
parce
oui,
qu'à
parce
l'époque,
que...
il y avait 6 chaînes de télé. Mmh. Et du coup, ouais, on la reconnaissait dans la rue.
Et puis les chiffres et lettres, c'est un monument, quoi.
Et puis les chiffres et lettres, bien sûr, c'était. D'ailleurs, ça continue d'exister.
Bien sûr.
C'est dingue, c'est une des plus anciennes émissions de télé. Mmh. Donc voilà, moi, la télévision, l'image faisait partie de ma vie, en fait. C'était mon quotidien. Enfin, voilà, c'était normal, quoi. Donc je voulais surtout pas faire ça. Je voulais surtout pas faire de télé. Je trouvais que c'était vraiment d'une banalité, d'une non-originalité absolue.
Donc toi, tu voulais faire le cinéma,
par contre, le
truc
cinéma,
un peu noble.
Je trouvais ça trop classe. Ouais, l'odeur de la pellicule, quoi, tu vois. et puis, j'ai eu la chance de faire des bonnes rencontres assez vite, en fait, qui m'ont permis d'accéder à des gros plateaux de cinéma ou de gros téléfilms, en tout cas, tu vois. C'était pas de l'émission, c'était de la fiction. Okay. Voilà. Ça, c'était ça qui était important pour moi.
Ouais.
C'est de travailler avec des réalisateurs de fiction, des comédiens, de connaître, voilà, de savoir comment on fabriquait un film, quoi, tu vois, comment on racontait une histoire. Et voilà. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. J'étais assistante à la mise en scène. Sur des tournages.
Donc, ouais. Tu as fait ton métier après.
Ah ouais, j'en ai fait mon métier.
Je savais pas.
J'ai pas lâché l'affaire. Hein.
Ok. Comment... comment tu fais pour passer du cinéma au monde de la télé alors? Parce que, donc pendant 10 ans, t'as quel âge? T'as donc 30 et...
J'ai commencé à faire des tournages, j'avais genre 22, okay. Tu vois. Non, je te dis des conneries, j'avais 20 ans même. J'étais jeune, parce qu'en fait, j'ai commencé à bosser sur des films
quand t'étais étudiante,
tout en étant à l'école. Et puis très vite, je me suis rendu compte que j'apprenais 10 fois plus en un tournage de 3 mois qu'en un an d'école.
C'est ça.
Donc voilà, j'ai dit, écoutez les gars, c'est pas grave, je n'aurai pas mon diplôme, mais tant pis en fait, parce que j'avais des opportunités de bosser sur des films. Donc j'ai pris cette voie-là. En tout cas, moi, m'a convenu. C'était vraiment le terrain, quoi. C'était tout de suite se confronter à la vie professionnelle, au statut d'intermittent, à gagner ma vie. Enfin, voilà, du coup, ça s'est fait très, très tôt. Donc, de 20 à 30 ans, à peu près. À peu près. 20 à 30 ans. Attends, pardon, je te fais une chronologie pas tout à fait exacte. Je pense pas que ça a duré 10 ans, en fait. Ça a duré un petit peu moins. Bref,
okay.
On s'en fout, mais j'ai, sur un film, un de mes derniers tournages, j'ai rencontré l'homme de ma vie.
Ok.
Bon, alors il faut savoir que un tournage, enfin, disons que la vie d'intermittent, de technicien du cinéma, n'est pas la vie idéale pour être stable dans sa vie sentimentale. Voilà.
C'est un boulot prenant.
non seulement c'est prenant, mais en plus ça prend tout ton temps et puis toute ta tête et puis tout ton cœur un peu, parce que c'est comme une colonie de vacances, tu vois. Tu pars en tournage pendant 2 mois, 3 mois, et puis ça devient non seulement tes collaborateurs, mais aussi tes meilleurs amis et puis potentiellement tes amants. Enfin, tu vois, on va pas se mentir. Je ne révèle aucun secret, mais enfin voilà, c'est vrai que c'est des métiers où où la séduction fait partie du métier quasiment. Donc en gros, si t'as envie de construire une famille, après tu fais ce que tu veux. Mais disons que si t'as envie d'un tout petit peu de stabilité, moi en tout cas, fallait que j'arrête parce que c'était plus compatible. Donc j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui le père de mes enfants.
Qui t'a donc fait arrêter, c'est ça, ou...
Je me suis dit, dis donc, toi là.
Et tu l'as rencontré sur un tournage.
J'ai rencontré sur un tournage qui s'appelle, d'un film qui s'appelle On va s'aimer. Ça ne s'invente pas. Donc voilà, on était sur ce tournage et puis on s'est rencontrés. Lui, il faisait de la décoration. Il était dans l'équipe déco et moi dans l'équipe mise en scène. Et voilà. Et donc après ça, je me suis dit, ok, maintenant on va se calmer un peu. On va trouver un boulot un tout petit peu plus sédentaire, plus stable.
C'est sa rencontre, enfin, c'est le fait que tu le rencontres lui qui
ouais,
te fait dire
bah,
ça.
Et puis je pense que voilà, il est arrivé aussi à un moment de ma vie où j'avais fait le tour de la question, j'avais un peu envie de me poser, j'en avais marre de partir tout le temps en tournage, c'était trop prenant. Puis j'avais envie de construire une famille, enfin clairement, okay. Tu vois. Donc voilà, du coup j'ai petit à petit arrêté les tournages de cinéma et pour basculer dans la prod télé en fait, voilà. Où c'était dans des bureaux, voilà, avec des collègues, un rythme plus classique, quoi.
Comment tu vis le fait de renier un peu la Clémentine de 20 ans qui disait « Moi, la télévision, jamais !» Est-ce que 10 piges
oui,
plus tard, tu te dis «
Oui, je sais,
écoute...
bon, écoute, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, d'une part. » Et ensuite, j'ai trouvé dans la télévision des choses qui me correspondaient. Parce qu'en fait, entre-temps, la transition entre le cinéma et télé, elle s'est faite quand même avec une année de coupure à New York.
Okay.
Et ça, c'était quand même très cool parce que pendant cette année de break, j'ai pu explorer du coup la prod... télé à New York, ce qui est quand même assez cool, quoi, tu vois, pour découvrir ça. Et voilà.
Pourquoi
et
donc, tu décides de partir à New York comme ça?
Parce que New York, j'avais envie d'y poser mes valises depuis très longtemps. Je connaissais cette ville pour y être allée plusieurs fois. J'étais jeune fille au pair. J'y allais aussi parce que j'ai toujours adoré cet endroit. Et puis, j'avais envie vraiment de m'y poser, tu vois, et d'expérimenter la vie new-yorkaise, mais vraiment au quotidien, quoi, avec un boulot, un appart, un loyer à payer, voilà. Donc
tu laisses ton gars que tu venais de rencontrer.
Alors, ce qui était très bizarre, c'est qu'on venait de se rencontrer. Sauf que moi, j'avais déjà prévu ce voyage.
Ah.
Et je lui ai dit, écoute... Sorry.
See you.
I'm leaving. Donc non, mais je lui ai dit, écoute, moi je fais ce voyage, quoi qu'il arrive. Donc tu viens avec moi, aucun problème, c'est cool. Tu viens pas, tant pis. Mais moi en fait, il y avait un truc de bon. Et puis je pense que je sentais aussi que on pouvait résister à cette distance. Et donc surtout, lui il m'a dit, mais carrément, je vais venir te rejoindre. Enfin, tu vois, donc. Donc il est pas venu tout de suite, mais il est venu plusieurs fois et en fait on a démarré notre histoire comme ça et cette expérience nous a prouvé que c'était solide puisque voilà on a tenu cette première année un peu comme ça à distance.
C'est une bonne façon de démarrer.
Ouais, c'est un bon test.
Mettre à l'épreuve.
Et à la fois de vivre ensemble aussi ces quelques mois ensemble à New York, c'était fantastique. Ça crée des liens, hein, forcément. Donc, non, c'était génial.
Comment tu fais pour arriver à New York dans une ville que tu connais pas et te dire, comme tu dis, tu as expérimenté un peu le monde de la prod télé et tout. Comment tu fais pour te frayer un chemin?
Bah, j'envoie des CV.
Ah ouais.
J'envoie des CV à des prods...
Toi, t'es une petite Frenchie qui débarque, qui connaît rien du
métier. Ah ouais, mais en fait, j'ai très vite compris qu'il fallait que je me serve de ça.
Ok.
Parce que la petite Frenchie à New York, en fait, si tu renverses le... Si tu regardes à travers un autre angle, ça peut être assez chouette pour les Américains et, ou même pour des prods françaises, tu vois.
Okay.
Qui auraient besoin d'une nana bilingue qui compte pas ses heures, qui a besoin de taffer, voilà. Donc, j'ai... J'ai pris contact avec des boîtes de prod, beaucoup de françaises là-bas, notamment une qu'on m'avait recommandée. Et puis ça a fonctionné. Bon, après, ils me prenaient en stage. Hein. Franchement, c'était... Je repartais de zéro. Hein.
Ah ouais.
Mais au moins, j'avais un job. Ça me permettait d'être immergée vraiment dans cette vie new-yorkaise. Sauf que, bon, bah, le stage, hein, par définition, t'es pas vraiment payé. Donc, il a fallu quand même que je bosse à côté. Donc, j'ai trouvé un boulot de serveuse dans un resto français. Donc, encore une fois, ils étaient bien contents d'avoir une nana qui parlait les deux langues. Et donc, j'étais serveuse dans un resto de West Village qui s'appelait Le Gamin, qui servait des crêpes et des omelettes et des gaufres, tu vois. Et qui était un endroit hyper cosy, tu sais, comme dans les films, comme dans les comédies romantiques de Noël, où les New-Yorkais venaient boire leur chocolat chaud et manger leurs crêpes, quoi. Et moi, j'étais la petite serveuse Frenchie, donc j'étais parfaitement dans le décor, tu vois, il n'y avait pas de problème. Donc voilà, donc je me faisais du cash en étant serveuse, et puis je me faisais la main sur une expérience de prod dans la boîte dans laquelle je bossais.
Donc tu dis que tu comptais pas tes heures, j'imagine que là, t'es
sur... Ah bah laisse tomber, c'était 24h/24. Ah ouais, mais je m'en foutais, parce que c'était une telle expérience, c'était génial. Non, il y a... C'était effectivement, je ne comptais pas mes heures, mais attends, excuse-moi.
Ouais, vas-y.
J'ai quelqu'un qui m'appelle de manière un peu récurrente.
Ok, vas-y. Donc. Tu disais que tu t'as fait comme une brute. C'était un peu l'objectif.
Oui. Mais moi, de toute façon, j'ai toujours eu cette capacité à beaucoup, beaucoup travailler. En fait, quand je kiffe un truc, quand je sens qu'il y a des choses à construire, j'y vais à fond. Ça n'a jamais été un problème.
Ton rapport au travail, quoi.
Ouais.
Très bien, donc en fait, tu fais cette année-là.
Voilà.
Ça te permet de pouvoir mettre une ligne ou deux sur ton CV de prod.
Exactement. Okay. Et puis, en rentrant en France, encore une fois, je retransforme le truc dans l'autre sens. C'est-à-dire que, OK, ça fait un an que je n'ai pas bossé en France, mais je reviens de New York. Donc, il y a un truc aussi assez cool. Et je m'en sers pour que ce soit, en fait, un plus plutôt qu'un moins. Et là je rentre chez MK2, les
cinéma,
mais en fait qui avait une filiale télé web, voilà, puis dans une autre boîte de prod où je suis restée pendant 3-4 ans, puis après j'ai commencé à faire du casting, et c'est ça qui a été surtout la grande révélation. Il y a 8 ans, tu vois, où j'ai commencé à faire du casting.
Qu'est-ce qui fait que tu décides de te lancer dans le casting?
Une rencontre.
Ok.
Ouais, c'est souvent les rencontres, moi, qui ont été déterminantes dans mon parcours professionnel. Et là, c'est une rencontre avec une productrice de télé avec qui je suis devenue... J'ai eu vraiment... Le courant est passé. Et c'est elle qui m'a dit pour la première fois un jour « Mais dis donc, t'as pas envie de faire du casting pour des candidats de télé ?» Moi, je ne savais même pas que ça existait, en fait. Tu vois, j'ignorais tout des process de candidature, de comment les gens se retrouvaient dans une émission de télé. Franchement, j'étais complètement passée à côté. Et elle m'a dit, si, je t'assure, je suis sûre que tu ferais ça très bien. Viens avec moi, je t'embarque sur une nouvelle émission là, de cuisine pour M6. Je sais pas trop ce que c'est, mais tu vas voir, ça va être cool. Viens, on va bien se marrer. Et puis en fait, moi j'ai dit ouais, ok, cool, et je me suis retrouvée directrice de casting, ce qui en vrai était un peu inconscient parce que je n'avais jamais fait ça. Et il se trouve que l'émission c'était Top Chef, donc évidemment rétrospectivement ça paraît fou, mais sur le moment on a fait ça avec un enthousiasme enfantin et beaucoup de... Ouais, beaucoup de... Comment dire ?
De naïveté, non ? Peut-être tu dis.
Ouais, beaucoup d'innocence et de... En tout cas, on s'y est mis à fond, évidemment. On a tout fait pour dénicher ces pépites de la gastronomie française. Et je me suis éclatée, effectivement. Et là, je me suis dit, ok, bon, autant la prod, tout ce qui était chiffres, tu vois, vraiment budget, tableau Excel et tout, je savais faire, mais ça m'éclatait pas. Mm. Autant là, le casting, ça a été, ouais.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Qu'est-ce qui fait, selon toi, que cette personne te propose de faire du casting?
Bah, écoute, ouais, je lui ai souvent demandé après parce que c'est quelqu'un qui a du flair. Je pense que ça, c'est sa grande qualité. Et d'ailleurs, elle l'a prouvé avec bien d'autres personnes que moi. Il y a des gens comme ça, tu sais, qui sentent les aptitudes des uns et des autres. Et moi, elle avant même que toi, tu les sentes, en fait. Et moi, elle a décelé ça chez moi, c'est-à-dire cette capacité à être dans l'humain, dans l'écoute... Ah tiens, comme c'est bizarre.
On va y arriver, je pense, à un moment donné, à ce
mais
que
non,
tu fais aujourd'hui.
Mais non, mais ouais, c'est... En fait, tu vois, je m'en rends compte, évidemment, aujourd'hui.
C'est une forme
d'interview,
un casting, de toute façon.
Bah, bien sûr. C'est dénicher des témoins intéressants, les faire raconter leur vie, et puis après, faire en sorte qu'ils soient aptes à être mis devant une caméra de télévision et à s'éclater, à faire une émission de télé, tu vois. Et qu'ils soient des bons... persos, on appelle ça des persos en télé, des bons persos. Un bon perso, voilà, c'est quelqu'un qui est haut en couleur, qui va te faire passer des émotions, que ce soit du fun, de la tristesse, de la colère, voilà. Donc, nous, en télé, on cherche toujours des personnages avec des modulations d'humeur, tu vois. Les personnages lisses, ça nous intéresse pas, évidemment.
Bien sûr. Ok.
Voilà.
Tu fais ça pendant...
Pendant 8 ans. Okay. Ouais, parce que j'ai commencé... je suis tombée enceinte assez rapidement de Pablo et... ouais, à peu près 8-9 ans.
Ok. Et donc tu dis, en tant que directrice de casting, donc non seulement tu recrutes, enfin j'imagine que tu vois les potentiels candidats, tu décides de qui va être à l'antenne, et puis après tu les formes, c'est ça? Tu les coaches aussi?
Ça dépend des émissions. Il y a des émissions sur lesquelles on nous demande de faire un travail de casting assez poussé, donc avec plusieurs entretiens, pour être sûr en fait que la personne va être apte à tenir une émission sur ses épaules. En fait, ça dépend de l'émission. Par exemple, je te donne un exemple concret.
Ouais.
J'ai travaillé sur cette émission qui s'appelait Le Bachelor.
Ouais.
Bon, Le Bachelor, ça repose sur un mec. C'est-à-dire, si le mec, il n'est pas à la hauteur, ton programme, il est foiré. Donc, typiquement, avec un bachelor, il y a un boulot, il y a plus de travail qu'avec un candidat qui va faire un épisode d'une émission où ils seront plusieurs et où ça tourne, tu vois. Donc, voilà, ça dépendait des projets à chaque fois, mais je me suis bien marrée, ouais.
T'as bossé sur quelles émissions?
Bah écoute, voilà, donc Top Chef Bachelor, Ninja Warrior récemment, des émissions d'Access, qu'on appelle l'Access, donc c'est les émissions qui passent vers 17-18 heures, où tu sais, les gens s'invitent les uns chez les autres, donc il y a une émission qui s'appelle Mon plus beau Noël, où genre c'est une compète de soirée de Noël, L'addition s'il vous plaît, qui est une compète de resto, les plus belles vacances, qui est une compète de Airbnb, de lieux de vacances. Enfin tout un tas de programmes comme ça, soit de l'Access, soit du prime time.
Ok. Et tu. Comment ça se passe en fait ta décision de lancer Bliss? Parce que là, quand tu lances Bliss à l'époque, t'es encore.
Je suis chez TF1, toujours.
Chez TF1, tu bosses avec eux.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que tu te dis, ok, en fait, j'ai envie de. Il est où le pont?
Il est où le pont? The bridge. Eh bien, il est que le pont, en fait, il se construit, hein, je pense, petit à petit, depuis plusieurs années déjà. Il n'y a pas eu, tout d'un coup, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « Oh mon Dieu, ça y est, il faut que je fasse quelque chose pour moi et par moi-même ». Ça, c'était en maturation depuis plusieurs années. j'avais envie de faire quelque chose qui ait du sens pour moi, en tout cas. Cette réflexion a été beaucoup nourrie je pense, pas mal par des rencontres avec des entrepreneurs, notamment via une de mes sœurs qui a monté une start-up comme un incubateur, si tu veux, d'entrepreneurs sociaux. Rétrospectivement, je relis beaucoup mon parcours, en fait, à elle, au lancement de sa boîte, à elle. Parce que, elle accompagne, en fait, des entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Et du coup, moi, j'étais comme un peu une petite souris. J'allais aux réunions, enfin, aux présentations, je suivais son projet et tout. Et je me suis dit, mais c'est génial, en fait. C'est tous ces gens qui essaient de réinventer un peu le monde de demain via des initiatives locales, sociales. Je trouvais ça fantastique et c'est fantastique, honnêtement. Elle fait un boulot extraordinaire.
Ça s'appelle comment?
Ça s'appelle Ticket for Change.
Ok.
Et ouais, c'est une des fondatrices de Ticket for Change, ma sœur. Et franchement, elle est incroyable. Et c'est vrai que, en fait, en ayant toute son action comme ça en satellite de ma vie à moi, plus au sein de TF1, j'ai fait des castings. J'ai fait un casting d'entrepreneur, donc je me suis immergée dans cet univers aussi de l'entrepreneuriat. Ouais. J'ai fait un casting de sage-femme aussi, donc j'ai replongé dans tout cet univers de maternité. Je me suis souvenue à quel point c'était un sujet qui me touchait au plus profond de mes tripes. Et malgré le fait que mes enfants grandissent, c'était toujours très, là, très, très présent. C'était toujours une source de curiosité très forte. Et puis j'ai découvert les podcasts. Enfin, franchement, ça a été ça, en fait, le déclic. Parce que, honnêtement, monter un projet, c'est bien joli. Mais encore faut-il trouver le support, trouver le sujet, le support, l'angle. Et en fait, tout ça, c'est fait de manière hyper rapide une fois que j'ai eu découvert les podcasts.
D'accord.
Voilà, ça a été le révélateur.
Tu découvres quand les podcasts, alors ?
Bah, il y a 2 ans.
Ok. Ah oui, donc très vite.
Oui.
Ok.
Moi, j'écoutais beaucoup la radio. J'écoutais donc beaucoup de replays de radio. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis venue à découvrir les podcasts natifs. Donc,
pour les gens qui l'ont pas, en fait, en gros, on distingue les podcasts qui sont des podcasts de replay radio, justement, et les podcasts natifs qui sont des podcasts qui sont faits pour passer en podcast.
Voilà,
et pas pour
qui
passer
sont
à la radio.
Du contenu exclusif, quoi, voilà, qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'en podcast. Et ça, j'ai trouvé, enfin, pour moi qui venais du monde de l'image et de la télé, j'ai trouvé que c'était un formidable pied de nez, justement, à l'image et une façon incroyable de se débarrasser du superflu pour ne garder que l'essentiel, quoi, et de faire passer on peut faire passer tellement de choses par la voix, quoi. C'est fou. Donc voilà, ça m'a plu. Ça m'a énormément plu et ça m'a tellement plu que j'ai décidé de lancer mon propre podcast.
Comment ça se passe alors, le cheminement ? Pour lancer l'épisode 1, par exemple, tu te dis...
Bah, l'épisode 1...
Pour moi, c'est ça le plus dur, tu vois, c'est de réussir
La bascule. Non, mais t'as raison. En fait, moi, j'ai découvert donc un podcast australien qui parlait de maternité.
Ok.
Et je me suis dit, ok, c'est génial, j'en veux encore, tu vois, j'étais genre boulimique de ce truc. Et je me suis dit, bon, bah, il doit y avoir l'équivalent en français, obligé, tu vois. Et puis en fait, non, il n'y avait rien. Donc c'est là que je me suis dit, ok, là, ma cocotte, si tu veux choper un créneau, c'est maintenant et c'est tout de suite. Parce que je sentais bien que le train, il était en marche, tu vois. Je le sentais. Et donc, il y a un moment, si toi, tu le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Ça, c'est, tu peux être sûr que, voilà, ça se passe souvent comme ça. Donc, j'ai retroussé mes manches et puis je me suis dit, bah, ok, cette idée, en fait, elle réunit tout ce que j'aime et tout ce que je sais faire. Elle réunit le témoignage, la maternité, le storytelling, parce que raconter des histoires, c'est ce que je préfère faire, transmettre des émotions, et puis surtout je vais interviewer des femmes qui vont me raconter tout en détail, tous les détails de leur grossesse et de leur accouchement. Mais quel kiff, en fait. Pour moi, c'était franchement, c'était vraiment d'abord un kiff personnel et une curiosité personnelle. Et puis, il y avait aussi, en parallèle de ça, une autre de mes sœurs. Donc, comme je t'ai dit au début, ouais, j'ai des sœurs jumelles. Donc, une qui est partie dans l'entrepreneuriat social et qui, pour l'instant, n'a pas d'enfant. Et l'autre qui est tombée enceinte, en fait, à ce moment-là. Et j'étais, du coup, un peu sa référente, tu vois. En tout cas, la personne ressource à qui elle posait toutes les questions qu'elle ne pouvait poser à personne d'autre. Et je me suis rendu compte, mais je l'avais déjà un peu expérimenté avec des copines et des cousines, que en fait les informations, elles circulaient pas quoi. Donc voilà, ça plus ça, je me suis dit ok c'est bon là, on arrête les conneries, on y va. Tu t'achètes un micro, tu te formes sur un logiciel de montage, ça doit pas être très compliqué. Moi je faisais déjà beaucoup de montage en télé, donc je savais couper.
Ouais, parce que tu faisais du montage aussi.
Oui. Okay. En fait, quand tu interviews un témoin, un candidat de télé, tu le filmes, mais tu gardes pas toute l'interview. Donc, pour présenter à la chaîne, tu fais un montage, tu vois, de 2 minutes, bien punchy, tu vois, qui le présente pour qu'il soit validé par la chaîne.
Okay.
Donc, ça, c'était un exercice que je savais faire.
D'accord.
Donc, en fait, j'avais toutes les clés en main pour faire ce projet.
J'imagine que quand tu le lances, c'est pas forcément un projet où tu te dis je vais me lancer en tant que, enfin je vais quitter mon job.
Pas du tout.
Voilà, pour toi c'est un truc que tu peux faire le week-end à côté ou le soir.
Exactement. Pour moi c'est un truc, justement comme j'ai les outils pour le faire et que ça ne me demande pas un investissement de dingue, type acheter un local pour ouvrir un resto ou tu vois du tissu pour faire des fringues, ça ne me demandait qu'un investissement minime.
C'est-à-dire que du temps
et un micro. Voilà, bon, mais j'ai décidé de le faire, cet investissement. Et effectivement, j'ai commencé vraiment de manière mais très artisanale. Enfin, d'ailleurs, c'est toujours très artisanal et je pense que c'est peut-être ça qui fait aussi le charme du truc. Mais à interviewer ma première invitée, c'était ma cousine. La deuxième, c'était la marraine de Pablo, tu vois. Et puis je me suis fait la main un peu sur elle et puis je me suis rendu compte très vite que ça fonctionnait en fait, parce que quoi de mieux que 2 heures de temps de parole pour raconter le moment le plus fort de ta vie de femme en fait, et le plus émouvant. La magie a vraiment opéré à ce moment-là avec mes 2 premières invitées qui pourtant étaient des proches, tu vois. Donc je connaissais leurs histoires, mais malgré ça, on a vécu un truc où je me suis dit waouh putain c'est puissant, ok là il se passe vraiment un truc. Et donc après ça je me suis dit bon bah voilà, mon concept il fonctionne. Je sais pas, j'avais une espèce de conviction quoi. Je me suis dit si moi je me laisse embarquer par le récit, avec un peu de bol, je vais avoir des auditrices qui vont ressentir la même chose, tu vois. Bon, et effectivement.
T'as eu un peu de bol. Enfin non, c'était pas du bol, je pense, hein, mais bon.
Je sais pas, mais en tout cas, ça a fonctionné pour plus que je ne pensais.
Tu te lances comme ça, je pense que tu bosses le soir ou le week-end, j'imagine. Tu continues à avoir
chaque minute qui m'était
ton taf à côté, quoi.
Ouais.
Tu testes, je pense aussi, ton concept. Ça te permet de pouvoir le tester en sécurité, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, plutôt que de te dire « je plaque tout, je démissionne, machin ».
C'était impossible, ça. Je pouvais pas, financièrement, je pouvais pas plaquer mon job, c'était mort. On pouvait pas, enfin mon mec malheureusement ne pouvait pas subvenir, enfin je dis malheureusement, enfin c'est même pas malheureusement, il se trouve que c'est comme ça et qu'on a besoin de nos 2 salaires pour faire tourner la baraque. Donc moi il était pas question que je quitte mon job pour faire du podcast. D'ailleurs, à un moment, j'ai senti que mon mec était là, genre, mais dis donc, rassure-moi, c'est génial, hein, chérie. Vraiment, j'adore, franchement, bravo. Mais t'en es où, là, de,
t'es pas partie
de la bascule
pour être podcasteuse, parce que,
non, ouais, c'est ça. Tu me préviens, genre, on s'organise si tu bascules vraiment. Et effectivement, il a fallu un peu anticiper le truc.
Tu fais combien d'épisodes, en fait, avant de te dire, ok, il y a peut-être un vrai truc à faire?
En fait, je me dis qu'il y a un vrai truc à faire au moment où la monétisation, où je commence à monétiser, ouais. Tu vois.
Mais comment tu monétises ?
Bah, je monétise.
C'est venu comme ça, pouf.
Ouais.
Bah, fais pas. Mais fais non, pas mais... genre tu t'excuses.
Mais ouais, mais le truc c'est que quand t'as des grosses audiences, forcément, on s'intéresse ouais, à toi.
Bien sûr.
Puisque tu deviens un espace où, ouais. Où avec de l'audience, enfin avec de l'intérêt et de l'engagement. Donc, bah, évidemment, les marques, elles cherchent que ça. Hein. Elles cherchent une écoute concernée, engagée, ciblée. Voilà. Et moi, j'ai une écoute, effectivement, j'ai une audience, effectivement, très, très engagée et très ciblée. Donc, oui, très vite, en fait, j'ai été approchée par une régie publicitaire qui s'occupe donc de mettre en contact les marques et les podcasteurs. Et donc, bah, voilà, ils m'ont proposé très vite des sponsors.
Des OP. Ouais,
ouais des OP. Donc, c'est... Et puis, en plus, ça m'a plu, cette nouvelle façon de faire de la publicité, parce que c'est host-read, comme tu sais. Donc, c'est dit par nous, les hosts, et c'est remanié, en fait, parce que moi, j'écris le message publicitaire à ma sauce. Donc, c'est cool, tu vois, c'est pas agressif. Il y a ma petite musique derrière. Enfin, voilà. Pour moi, c'est important, ça, de pas trop prendre en otage les auditrices. Enfin, surtout, leur proposer des marques dans lesquelles elles vont potentiellement avoir un intérêt, un vrai intérêt. Et puis dire un message, voilà, joliment tourné, quoi.
Je comprends.
Tu fais ça très bien aussi, d'ailleurs.
Merci.
J'en profite pour te le dire.
J'essaye. bon, super. Et donc, ça te prend quoi? Ça prend 6 mois? Un peu plus, non? Attends.
Un peu plus parce que.
On s'est vu quand pour la première fois, tu m'as dit que tu te cassais.
Ouais.
Tu prenais ton envol.
Bah, en fait, quand on s'est vu, c'était au printemps dernier.
C'est
ouais,
ça, ouais.
Enfin, presque l'été dernier, parce qu'en fait, tout ça a été assez rapide entre le moment où j'ai décidé de partir de TF1 et le moment où je suis partie. Il s'est passé 2 mois, quoi, tu vois. De toute façon, je pense que quand t'as décidé de partir, faut pas trop s'éterniser.
Il faut partir.
Donc voilà. Et puis, entre-temps, chose importante, j'ai rencontré aussi les gens de la plateforme Cybelle, qui sont quand même pas étrangers non plus à mon envol. Parce que, en fait, moi, mes épisodes sortent en avant-première sur leur plateforme. Donc, Cybelle, c'est un peu...
C'est une appli.
C'est une appli qui propose des podcasts exclusifs. Que je te dise pas de conneries.
Et des podcasts en avant-première comme les tiens, c'est-à-dire que...
Oui, voilà, c'est-à-dire que il n'y a pas que de l'exclusif.
Il n'y a pas que de l'exclusif. Hein.
Mais beaucoup quand même.
Ouais.
Et ils ont une super sélection d'ailleurs. Et donc eux, ils produisent voilà, plein de choses. Et ils m'ont proposé effectivement, comme ils n'avaient pas de marque avec un univers comme ça, maternité, on a décidé de travailler ensemble. Et puis j'aimais bien leur concept, j'aimais bien l'idée que l'industrie du podcast grandisse comme ça avec des plateformes dédiées. Et voilà. Donc maintenant, voilà, depuis le mois de mai, mes épisodes sortent en avant-première chez eux pendant 10 jours. Et
okay.
Après, ça, il rebascule sur toutes les autres plateformes.
D'accord.
Voilà. Et donc ça, forcément,
ça a aidé à faire connaître ton podcast, c'est ça ?
Ouais, ouais, ouais. Et puis à avoir des rentrées financières. Hein. Enfin,
oui, il te paye aussi cette exclusivité.
Bah oui, l'exclusivité, elle est forcément, elle a de la valeur.
Ok.
Tu vois ? Donc voilà, tout ça mis bout à bout a fait que j'ai pu quitter mon job.
Et donc tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale ?
Absolument.
T'as quel âge ? 40 ?
41 depuis un mois.
C'est pas grave, ça arrive à des gens très bien, tu sais.
Mais voilà, moi, tout ce virage, il est arrivé l'année de mes 40 ans. Hein.
C'est fou, hein.
C'est fou. Comme quoi, hein. C'est vraiment l'âge de tous les possibles, hein, de tous les changements.
Bah, c'est le moment ou jamais. Hein. Ouais. Il y a une très belle chanson de Grand Corps Malade, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Mi-Parcours.
Ah non ?
Oui, il raconte qu'il a 38 ans et qu'en fait, pour lui, jusque-là, 38 ans, c'était être vieux, tu vois, dans sa tête. Et que là, d'un coup, il se rend compte qu'en fait, il a 38 ans et qu'en fait, il y a encore plein de choses à faire. Je te l'enverrai si tu veux.
Ah, ouais,
vous le mettrai dans, je vous mettrai
avec
dans
plaisir.
Les notes.
Ouais.
Je trouve que ça parle. Peut-être ça te parlera pas mal.
Oui, j'en doute pas, là, d'après ce que tu me dis, effectivement. Ouais,
parce que c'est ça,
devrait
en fait.
Faire écho.
Non, c'est la mi-vie, quoi.
Ouais, c'est la mi-vie.
40 ans.
Ouais, ouais. Et puis, c'est vrai que quand tu démarres un truc comme ça. et que tu t'envoles de tes propres ailes, il y a un sentiment de liberté et de j'en prends plein la tête là, franchement, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est formidable.
Je peux comprendre parce que moi j'ai monté ma boîte il y a 14 ans si tu veux, mais je pense que quand tu le fais à 40 ans après avoir passé autant de temps en tant que salarié quoi dans le privé d'une manière générale, ça doit être d'autant plus fou quoi.
C'est fou, c'est vertigineux, c'est ultra excitant, ultra flippant. Voilà, c'est plein de sentiments mélangés. Moi, j'ai la chance que, justement, comme je te le disais, j'avais préparé le terrain, donc je pars pas non plus d'une page blanche, tu vois.
Bien sûr. Super d'avoir
Je continue en fait ce que j'ai semé depuis un an et demi, et je peux m'y consacrer à 100%. Donc c'est génial en fait. C'est surtout ça, c'est d'avoir le temps de ne faire que ça. C'est pour moi, ça me remplit de joie tous les matins, quoi. Tu vois, vraiment. Je suis très très heureuse de pouvoir vivre cette aventure et d'avoir tenu bon, quoi. Et d'avoir.
Comment ça, tenu bon?
Parce que franchement, c'était éprouvant. Hein, l'année que j'ai passée avec les deux jobs. Fallait tenir, hein. Honnêtement, un épisode par semaine avec un job à temps plein à côté, le rythme il était quand même super intense. Mais voilà, l'envie était plus forte. Et puis c'est vrai qu'il y a une vraie communauté qui s'est créée aussi autour de ce projet et que ça m'a énormément porté.
Comment tu l'as alimentée, cette communauté? Elle est venue par elle-même?
Elle est venue sur Instagram, hein, beaucoup. Et puis je me suis mise à parler à toutes ces femmes, à communiquer à travers les réseaux sociaux avec elles. Et je les sentais très en demande, très curieuses, très, très enthousiastes, à vouloir, elles, à leur tour, témoigner. Et voilà, et en fait, du coup, j'ai bénéficié de leur enthousiasme et du formidable bouche à oreille qu'elles ont fait, puisque les mamans sur Instagram sont très puissantes. Tu n'es pas sans le savoir.
Les mamans sont puissantes d'une manière
générale. Les mamans sont puissantes.
Attendons-nous.
Évidemment. Les mamans sont. C'est pas ce que je voulais dire.
Les mamans sont puissantes, mais alors sur Instagram, elles sont.
Mais du coup, voilà, quand tu les mets sur des réseaux sociaux, là, qu'elles kiffent un truc. Bon, elles le font savoir. Moi, elles m'ont porté énormément.
Je vais te poser une question que je déteste qu'on me pose, mais je pense qu'il faut que je pense que c'est important que je te la pose.
Ok.
Pour toi, ça serait quoi? Alors, ton épisode pour lequel quelqu'un découvre Bliss et t'as 60 épisodes. En fait, tu te dis ok, par lequel je commence? C'est pas forcément le dernier qui est le plus inspirant, qui te touche le plus, vers lequel t'as envie de les orienter, les gens. C'est dur, hein. C'est un épisode.
C'est une question nulle, franchement, je te félicite pas, mais ouais, bon, puisque tu me la poses, je vais te répondre. Non, mais c'est vrai que c'est hyper dur, parce que.
C'est qui ton enfant préféré, tu vois?
Ouais, non, mais c'est ça, c'est atroce.
J'ai toujours l'impression qu'on me pose cette question.
Ouais, c'est exactement ça. C'est comme choisir entre tous ces enfants-là.
Épisode qui t'aurait particulièrement marqué ou que tu trouves, toi, représentatif de ce que tu veux faire.
Alors, je vais te répondre. Je peux en citer deux ou pas?
Bien sûr.
En fait, je vais t'en citer deux parce que, pour moi, ils représentent exactement ce que je veux mettre dans ce podcast, c'est-à-dire à la fois beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions et beaucoup de fun. Avec des nanas puissantes, avec une forte personnalité, sans filtre, et qui racontent leur histoire avec parfois des montées de larmes, mais tu vois, en retombant toujours sur leurs pattes, jamais dans le pathos.
C'est pas larmoyant, quoi.
Voilà, okay. C'est pas larmoyant. Donc je pense à deux épisodes, notamment l'épisode sur la dépression postpartum, avec Élodie qui de la marque Odette et Lulu, ouais. Dont je porte un t-shirt d'ailleurs aujourd'hui, bravo. Que j'adore. Et Elodie, elle a une façon de raconter sa dépression postpartum qui est juste hallucinante. Bon, elle a une très forte personnalité et beaucoup d'humour. Et c'est une badass, quoi, tu vois. Et elle le revendique. Et moi, j'adore cette façon d'aborder l'épreuve, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que, franchement, elle a morflé grave. Elle a vécu des années vraiment dures. Et elle en parle aujourd'hui avec à la fois beaucoup de... Comment dire ? Beaucoup de hargne et beaucoup de résilience. Enfin, je sais pas, il y a un mélange, en fait, de... Elle l'a digéré, si tu veux, et à la fois, elle était tellement en colère sur le moment que, quand je l'ai interviewée, tu sais, c'est remonté, quoi. Et puis, à la fois, elle se marre et elle a des anecdotes toutes les trois phrases. Et vraiment, pour moi, je me suis pris une grosse claque ce jour-là parce que j'avais jamais touché d'aussi près ce que c'était que la dépression, la vraie dépression du postpartum, okay. Tu vois, dans laquelle certaines femmes sombrent. Enfin, c'est vraiment atroce, quoi. Et je trouve qu'elle, voilà, elle avait une façon de raconter incroyable.
Ok.
Et un autre épisode je suis pas la seule à avoir été bouleversée par cet épisode, honnêtement, c'est un des plus, je pense, un des plus tristes et à la fois un des plus forts. C'est Pauline, avec un épisode qui s'appelle 9 mois, 9 jours. Voilà, où là on parle du deuil périnatal, qui est encore un sujet ultra tabou, parce que c'est très dur de parler de la perte d'un enfant, hein. Enfin, je crois qu'il y a pas pire sujet. Et encore une fois, cette femme, cette mère, a une façon d'en parler, franchement, qui force le respect et qui est fascinante. Et elle a une dignité et une... un recul, en fait, sur toute cette période de sa vie qui moi m'a laissé complètement sans voix, enfin plutôt avec plutôt des pleurs que de la voix, évidemment. Mais encore une fois, elle était pas là pour faire pleurer dans les chaumières, elle était là pour témoigner, pour raconter concrètement comment ça se passe, comment tu deals avec une situation comme ça, qui est la situation que tu ne souhaites à personne, même à ta pire ennemie. Et voilà, et ben pourtant, en fait, tu t'en relèves, parce que l'être humain est constitué comme ça, tu te relèves de tout. Et cette capacité de résilience, franchement, moi, m'avait tellement impressionnée chez cette fille. Donc voilà. Je te citerai ces deux-là, qui sont des sujets très durs. Mais je pense que ce podcast, il est là pour ça aussi. Oui. Il est là pour libérer la parole sur des sujets dont on parle pas forcément, quoi, ailleurs.
Je comprends. C'est quoi tes projets avec Bliss, alors ?
Oh là là, plein,
oh là là.
Oh là là.
Parce que là, j'imagine que comme t'es à plein temps,
oui,
t'as le temps de faire plein d'autres.
Oui, c'est vrai. Ah oui, parce que déjà que je faisais la même chose en ayant un autre job à côté. Oui, alors bien sûr, plein de projets dans le pipe, comme on dit. D'autres projets de podcast sur d'autres sujets, d'autres thématiques. Ça va être cool. Est-ce que je te le dis en exclusivité mondiale ?
C'est toi qui décides.
Et puis un projet de livre.
Waouh !
Voilà. Je l'ai dit à personne. Hein. Vraiment, t'es le premier. Un projet de livre sur lequel je travaille d'arrache-pied et qui sortira en 2020.
Ok.
Voilà.
En 2020. C'est la meilleure façon de pas créer
à un moment,
une
il va sortir. Je te promets.
C'est pas comme un enfant, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins programmé.
C'est-à-dire, voilà, exactement. Mais par contre, ça peut être...
un accouchement également.
Un vrai... ça peut être quand même comparé à une vraie gestation. Absolument. Donc voilà, j'y mets toute mon énergie et tout mon cœur parce que voilà, j'ai envie qu'il soit à la hauteur de mon exigence, en tout cas, et de ce que j'ai envie de faire passer... à travers tous ces récits.
Quelle leçon tu tires de, de tes 20 ans de carrière là.
Arrête, c'est horrible. Je sais. 20 ans de carrière.
Bah, c'est pas grave. Hein. C'est horrible, 20 ans de carrière.
20 ans de carrière, j'ai l'impression d'être.
C'est trop bien.
De recevoir un César d'honneur là. Tu
non, mais
sais.
Regarde, 20 ans.
Alors, pour l'ensemble de votre carrière. Nous vous décernons cette récompense. Alors écoute.
T'imagines quand tu auras 50 ans de carrière.
Arrête.
Clémentine, bonjour.
I wish. Écoute, ce que je retiens, qu'est-ce que je peux te dire? Moi, je peux te dire que je me suis toujours laissée guider par les rencontres, par mon instinct, par. Ouais, vraiment mon instinct, mais ça,
Non, mais c'est une bonne. Je pense que c'est un bon conseil à donner.
Ouais.
Notamment aux plus jeunes de nos auditeurs et auditrices, si tu veux.
Ouais.
Faites confiance à ce qui vous porte.
Oui, c'est ça. Quand tu crois plus que tout à quelque chose, même si on te dit mais t'es sûr que c'est un bon. Moi, je ferais pas ça comme ça, parce que tu vois, par rapport au marché, nanana. Non, en fait, tu t'en fous. Si t'as ça dans les tripes, vas-y. Et puis, par contre, faut bosser, quoi. Ça, il n'y a pas de secret. Hein.
Ça, je pense qu'on l'a bien compris.
Oh là là.
Que t'as taffé comme une brute.
Ouais. C'est vrai, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais je trouve, enfin moi après c'est quelque chose qui me constitue le travail. Il y a des gens pour qui c'est secondaire. Moi ça a toujours fait partie de moi. Et voilà. Après la leçon aussi c'est que faut bouger dès que tu t'ennuies. Faut pas trop attendre. Parce que le temps passe très vite et ce que je disais tout à l'heure, si tu le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et franchement, moi, quelqu'un d'autre aurait faibli à ma place, j'aurais eu tellement les boules.
Ouais.
Ah non, mais je m'en serais voulu, mais toute ma vie, quoi. Et aujourd'hui, je suis contente d'avoir tout fait pour le faire moi, malgré toute l'énergie que ça m'a demandé, mais je regrette pas une seconde, quoi. Parce que, ah ouais, j'y pense, tu sais, de temps en temps, je me dis, mais et si j'y avais pas été? Et d'ailleurs, je reçois souvent des témoignages de nanas qui me disent, oh là là, mais j'ai eu envie de faire ça aussi à un moment, en fait, c'est génial que ce soit toi qui le fasses, mais moi aussi, j'ai eu envie de faire ça. Et c'était sûr, tu vois, j'en étais sûre. Quand tu sens un truc, c'est dans, qu'il y a un truc dans l'air du temps, tu sens que t'as un coup d'avance, tu sais pas d'où il vient ce coup d'avance, mais tu l'as parce que, t'as cet intérêt, t'as flairé un truc, faut pas se poser de questions, quoi. Donc, voilà, les conseils pour la jeune génération.
Et on va conclure là-dessus.
Ok.
Merci beaucoup, Clémentine.
Bah, merci, Fabrice.
C'était trop bien.
Trop bien. À bientôt, tu viendras aussi. Tu viendras dans Bliss.
Tu me diras.
Hein? Ok.
Bisous.
Bisous.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.